Le temps d'aujourd'hui nuageux et humide partout, sauf sur le pourtour méditerranéen où le ciel sera dégagé, mais au prix du Mistral et de la Tramontane, les températures resteront douces. Fin de cette édition, merci de l'avoir écouté. Je vous laisse en compagnie d'Alain Finkielkraut pour réplique.
Réplique, la France et ses nouveaux enfants avec Thierry Jonquet et Joël Roman. La France est un pays profondément divisé. Voilà ce que nous annonce le titre de l'essai de Joël Roman, « Eux et nous », et celui du roman de Thierry Jonquet, « Ils sont votre épouvante et vous êtes leur crainte ». Cette phrase, somptueusement inquiétante, est un vers tiré de « L'année terrible » de Victor Hugo, œuvre écrite en 1871 sous le choc de la Commune de Paris. Mais le « il » de la Commune, c'était les prolétaires. Le « nous », c'était donc les bourgeois. On était dans le cadre, pour nous sans surprise, de la division de classe. Est-ce bien de cela qu'il s'agit aujourd'hui? La cassure française relève-t-elle toujours de ce schéma? Bref, Joël Roman, qui est ce « eux », qui est ce « nous » dont parle votre livre?
Ce « eux » et ce « nous », c'est celui que j'ai constaté revenir en permanence dans les représentations communes, celles que transportent les médias, celles que transportent un certain nombre de considérations ou un certain nombre de discours. Et j'ai remarqué d'ailleurs que le livre de Thierry Jonquet reprenait quasiment les mêmes expressions, parce qu'on voit bien qu'on fond en permanence dans la société française aujourd'hui. Il y a ce partage entre « eux » et « nous ». Alors si on veut aller un petit peu plus loin, qui est « eux », qui est « nous », eux, c'est cette bande un peu inquiétante de jeunes issus de l'immigration qui vivent dans les banlieues. Et alors, selon les circonstances, selon les moments, ça sera plutôt ceux qui sont du côté de la délinquance, ceux qui sont plutôt du côté de la révolte, ceux qui sont plutôt du côté de l'échec scolaire, ceux qui sont plutôt du côté de l'islam. Mais ce que je constate, c'est qu'on fait en permanence un amalgame et en quelque sorte, on construit comme ça un « nous » qui se protège. Et mon livre est pour plaider pour un « nous » un peu plus inclusif, c'est-à-dire à reconnaître dans ces jeunes qui nous inquiètent, ou même, peut-être pour le dire plus sèchement, qui nous emmerdent, de reconnaître nos enfants.
Reconnaître nos enfants, mais vous utilisez le terme de « représentation ». Est-ce à dire qu'on est dans l'ordre du fantasme, de l'hallucination? Est-ce à dire que la vérité du réel est détenue par les sociologues, les experts, leurs statistiques, et que les gens dont vous parlez se trompent sur ce qu'ils vivent. Ils croient voir, ils croient ressentir quelque chose, mais leur expérience relève de la représentation, alors que la vérité relèverait, ou la réalité, elle, serait l'apanage des experts.
Non, je ne crois pas que ce soit en ces termes qu'il faille poser le problème. Il n'y a pas d'un côté les représentations et de l'autre côté la réalité. Simplement, il y a la réalité, on en parle toujours à travers des mots et à travers des représentations et à travers un certain nombre d'images. Et je crois que nous manquons, au fond, la plupart du temps, d'une représentation peut-être un peu plus adéquate pour parler de ces choses-là. Donc, je ne dis pas que les gens se trompent quand ils en parlent, je dis simplement qu'ils en parlent en des termes qui sont parfois, eux, un peu fallacieux, des représentations un peu fallacieuses. J'essaye de faire la place, au fond, à une autre représentation des choses pour contrer cette représentation-là qui me paraît dangereuse, parce que si on insiste en quelque sorte et qu'on creuse cette fracture toujours davantage, eh ben on est en train d'élargir le sillon et le fossé.
Alors Thierry Jonquet, je me tourne vers vous et j'ai votre titre sous les yeux, « Ils sont votre épouvante et vous êtes leur crainte ». Donc même question, mais à propos de votre titre, qui est ce « il », qui est ce « vous » et...
C'est exactement ce que vient de résumer Joël Roman. Cela dit, moi, je n'ai pas tout à fait la même appréciation sur les représentations là, dont on parlait justement à l'instant. Ça me rappelle de mauvais souvenirs pendant des années et des années. Toute une série de sociologues se sont battus dans les médias pour expliquer qu'il n'y avait pas d'insécurité, mais simplement un sentiment d'insécurité. Et ça a causé des dégâts terribles, d'une part parce que c'était nier la réalité, d'autre part parce que les gens qui souffraient de cette insécurité réelle se sentaient totalement méprisés par ce discours, et ça a grandement alimenté le vote en faveur du Front National. Et bon, là, j'ai lu votre essai. Bon, vous êtes en gros sur la position du groupe dit des indigènes de la République, vous y faites fréquemment allusion, et bon, c'est un discours qui, justement, alors là, n'est pas inclusif, puisque le refus de la carte d'identité française, le refus de l'intégration, etc., c'est ce qui est prôné par ces gens-là. Donc voilà, il faut clarifier.
Alors je rappelle que les indigènes de la République se sont fait connaître il y a quelques mois par un appel pour des assises de l'entreprise anticolonialisme post-colonial, et que dans un texte en effet très virulent, il dénonçait notamment la loi sur les signes religieux à l'école, en disant qu'elle était discriminatoire, sexiste, raciste, et qu'elle était une loi d'exception aux relents anticoloniaux. Il mettait en cause ceux qui parlaient d'un antisémitisme venu des jeunes issus de l'immigration, parce que, et il disait que c'était une intelligentsia bouchiste qui parlait en ces termes. Mais alors, est-ce que que pensez-vous justement du discours des indigènes de la République, ou pour en rester une dernière fois à votre titre, le « e », peut-on dire justement que ce « e », ce sont aujourd'hui nos indigènes?
Je ne crois pas que ce soit nos indigènes, je crois que ce sont nos enfants. Moi, mon discours est pour plaider dans ce sens-là. Néanmoins, je comprends qu'un certain nombre d'entre eux, à force d'être en quelque sorte placés dans cette position qui est au fond la position d'accusé, quoi qu'il arrive et quelques défaillances qu'il y ait dans cette société, se sentent effectivement dans cette posture d'indigène. J'ajouterais que ce qui avait de provocateur, et je pense que c'est pour ça d'ailleurs que personnellement, moi je ne me reconnais pas tout à fait dans l'appel des indigènes de la République, contrairement à ce que disait Thierry Jonquet, mais je le comprends, et je comprends que cet appel ait été lancé, qu'il ait été lancé en ces termes, parce que je crois qu'une partie de la difficulté vient effectivement de l'héritage de la question coloniale et du fait que cette question n'a pas été résolue. Pour le dire très rapidement, je crois que les questions d'immigration en France sont toujours résolues, en grande partie parce qu'il y avait des structures et des vecteurs, au niveau général d'ailleurs de la société française, d'intégration, qui permettaient effectivement en une ou deux générations que le problème soit intégré et au fond disparaisse en tant que tel, qu'il s'agisse des immigrés, les immigrés européens de l'entre-deux-guerres et même de l'immédiate après-guerre, et que s'il y a un problème persistant avec des immigrés qui sont issus de l'ancien empire colonial, c'est en même temps un problème paradoxal, parce que c'était au fond les gens les mieux intégrés qui soient. Ils parlaient déjà la langue, ils connaissaient déjà la France, ils avaient déjà une familiarité avec la France, et c'est eux que, à travers une suspicion généralisée, on continue de tenir un peu en lisière de la République. Et donc les gens qu'on tient en lisière de la République se perçoivent effectivement comme des indigènes, c'est pas tout à fait à tort. J'espère qu'on pourrait arriver à avancer.
Vous écrivez « Reconversion de militants associatifs en vie de ceux qui s'en sont sortis de tendre la main au leur, ou bien ruses de l'État qui recourt à des formes de domination coloniale en demandant aux colonisés de fournir eux-mêmes leur encadrement, comme l'ont avancé certains analystes. » Ça, c'est un discours qui est assez fou, quoi. C'est-à-dire prétendre que les instituteurs, les bibliothécaires, les animateurs sportifs seraient des fonctionnaires coloniaux, il faut quand même oser tenir ce discours. Bon, pour rebondir, moi, je crois que c'est... Ce qu'on est en train de payer, c'est 30 ans de chômage de masse et de généralisation de la misère. Mais oui, c'est là le fond du problème. Et le fait que, bon, aujourd'hui, toute une génération de ces gamins n'ont jamais vu leurs parents aller au travail. Donc c'est devenu totalement abstrait. Et bon, nombre d'entre eux ont fini dans la marginalité et ne reviendront pas. C'est très triste à dire, mais je le crois profondément. Si rêvons un petit peu, demain, le plein emploi revenait en France. Bon, qu'est-ce que pourraient espérer beaucoup de ces jeunes? Ils ont un parcours scolaire complètement chaotique, un échec. Donc ils ne pourraient pas prétendre à des métiers gratifiants, qualifiés. Donc c'est le SMIC, sous les ordres d'un petit chef raciste pour 35 heures par semaine, alors que, disons les choses brutalement, avec un petit peu de deal et un petit peu de business, on s'en sort beaucoup mieux. Donc voilà, l'écueil, il est là. Et, mais si, vous le savez très bien.
Oui, mais enfin, si c'était...
Généralement.
Je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que probablement que le deal rapporte plus que le SMIC. Mmh. Ce qui est étonnant, c'est qu'au fond, il n'y a pas à ce moment-là énormément plus de dealers. Il y a beaucoup plus de gens qui travaillent dans les banlieues et de gens qui travaillent au SMIC, ou qui travaillent pour de façon difficile.
Non, là,
je crois
parlons...
qu'il faut pas avoir une vision aussi caricaturale des choses. Hein, je crois que c'est pas. Pour revenir à ce que c'est la phrase que vous citiez sur les fonctionnaires coloniaux, je mets en évidence simplement le chose que il y a une ambiguïté, il y a une ambivalence dans leur attitude. Je dis pas que ce sont des fonctionnaires coloniaux. Je dis est-ce que c'est des fonctionnaires coloniaux ou est-ce... Et je parlais pas des instituteurs, je parlais davantage des animateurs, de ceux qui sont dans l'encadrement associatif que très souvent les institutions au fond ont été cherchées en essayant de calmer le jeu, mais pas seulement les institutions locales. J'avais récemment travaillé un peu sur la manière dont les médias avaient couvert, par exemple, les émeutes de 2005, de l'automne 2005. Et alors, ils utilisaient quasiment systématiquement tous les journalistes issus de l'immigration comme étant des espèces d'intermédiaires, qui sont les pratiques, effectivement, qui étaient les pratiques. On peut, alors, après, ça ne veut pas dire que c'est une situation coloniale, mais on retrouve des relents ou des analogies, en tout cas, et des analogies qui, parfois, pourraient être inquiétantes. D'ailleurs, je dis que ce n'est pas forcément idiot que de mettre... c'était une grande tradition aussi française. Je veux dire que les instituteurs, les hussards noirs du début du siècle étaient des gens qui étaient eux-mêmes des paysans issus des milieux auxquels ils allaient apporter les lumières. Donc, ce n'est pas forcément en soi aberrant. Mais il faut être conscient quand même des ambiguïtés et des ambivalences que ce genre de choses provoquent.
Oui.
Et quant à la question sociale que vous mettez en avant, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'effectivement, l'une des principales raisons est une difficulté sociale et la question du chômage de masse, etc. Simplement, ce que je constate, c'est qu'on a là le recoupement au fond de trois fractures, une fracture sociale, une fracture territoriale et une fracture ethnique. Et les trois se recoupent complètement. Et c'est ça qui est la nouveauté de la situation.
Oui, mais les trois se recoupent. Il faut se poser la question de l'origine. Vous dites, à l'origine, il y a une suspicion à l'égard des immigrés et des jeunes issus de l'immigration, cette suspicion les radicalise. Je lis le roman de Thierry Jonquet, et puis je lis d'autres choses, pas seulement des romans, le rapport Aubin et le livre qui en a été tiré, L'école face à l'obscurantisme religieux, avec notamment un texte de Thierry Jonquet, mais aussi des textes de Michel Tribala, de Fethi Ben Slama, de Paul Thibault, d'Alain Sexig, de Barbara Lefebvre, etc. Et là, je vois la suspicion, par exemple, dont les professeurs font immédiatement l'objet, la haine, une haine sans précédent à l'égard, par exemple, de la culture française. Pourquoi enseigner Rousseau? Pourquoi nous présenter des églises? Pourquoi parler de la civilisation pré-islamique en Égypte? Une haine à laquelle les professeurs ne sont absolument pas habitués et dont je me demande si nous avons raison d'en rechercher l'origine dans je ne sais quelle culpabilité coloniale. Est-ce que pour ces jeunes aussi, il ne vaudrait pas mieux que la France s'assume davantage? N'y a-t-il pas un risque de voir l'esprit de pénitence alimenté et légitimer le ressentiment. Et donc, ce télescopage de la pénitence et du ressentiment, il ne fait qu'aggraver la division dont nous parlons.
Je ne parle pas de culpabilité coloniale et je ne parle pas de pénitence. Ce n'est pas la question de la pénitence. C'est la question de reconnaître, au fond, un certain héritage historique et une certaine situation. Et je pense que ce n'est pas le seul. Quant à la suspicion qui pèse, elle est évidente. Vous parlez du rapport Aubin, mais le rapport Aubin, précisément, qui est d'ailleurs un mauvais rapport,
ah bon,
un rapport fait sur des quelques petits éléments montés en épingle avec des généralisations qui sont vraiment l'illustration de ce que je dénonce dans mon livre. C'est-à-dire qu'on part de quelques éléments tout à fait réels, qui ont été effectivement constatés, des incidents où plus que des incidents, des dysfonctionnements graves dans certaines situations, qui sont le fait d'individus bien précis, et d'individus bien précis qui ont des comportements inadmissibles, bien entendu. Mais on dit « eux », on dit « ils », on dit « ces jeunes qui écoutent Ben Laden et qui sont devenus majoritairement dans nos banlieues ». Il y a une phrase dans le rapport Aubin qui dit qu'ils sont devenus majoritairement dans nos banlieues des suppôts de Ben Laden, ce qui est proprement du délire. Ce qui est proprement du délire. Elles sont dites exactement dans ces termes, ce qui est proprement du délire. Donc, moi, c'est ça qui m'inquiète, c'est que des gens quand même aussi respectables que des inspecteurs généraux de l'éducation nationale se mettent littéralement à délirer. Et je crains que ça ne soit pas la bonne attitude. Pour ce qui concerne les rapports à la culture, je crois qu'effectivement, il faut tenir bon. Et moi, je connais des milliers de professeurs qui peuvent témoigner du fait qu'ils étudient Rousseau, qu'ils étudient Victor Hugo, qu'ils étudient les grands auteurs classiques dans les banlieues, de la même manière que dans
mais
d'autres.
Moi, j'en connais.
Alors, j'en connais qui ont des difficultés.
Non,
certes,
c'est pas. J'en connais. Et je crois qu'ils sont majoritaires aujourd'hui qui vont faire court la peur au ventre. Parce que ça, vraiment, ils ont très peur. Ils ont très peur.
Mais
ils ont de bonnes raisons d'avoir peur. Des femmes menacées, des professeurs sur lesquels on crache.
Je crois que le fond de l'affaire, c'est quoi ? C'est que l'école, par rapport au milieu populaire, d'une façon générale, a toujours fonctionné sur l'idée que si les élèves travaillaient bien, ils s'en sortiraient. Et c'était, alors ça c'est propre à la société française sans doute, parce que jamais aucune autre société occidentale n'a autant investi dans l'école, au fond, ses espoirs d'ascension sociale. Si on prend par exemple l'organisation sociale allemande, c'est aussi dans l'usine, c'est aussi dans l'entreprise que se faisait l'ascension sociale, beaucoup plus qu'à travers l'école. Mais peu importe. Bon, en France, c'est à travers l'école que ça se faisait. Et aujourd'hui, on est bien obligé de constater que l'école ne tient pas sa promesse. Non pas parce que les individus ne tiennent pas leur promesse, mais parce que l'institution en tant que telle ne la tient pas et que le système ne la tient pas. Et qu'évidemment, à ce moment-là, il est beaucoup plus difficile, en quelque sorte, de faire accepter le renoncement à soi et l'intégration dans cette culture, sans compter qu'il y a d'autres aspects qui peuvent éventuellement interférer, contre une promesse qui est de toute façon une promesse totalement fallacieuse et que les enfants connaissent bien, ils savent bien qu'elle est fallacieuse. D'ailleurs, ce que raconte Thierry Jonquet dans son livre, qui est justement l'expérience d'une enseignante, le montre bien. Elle montre bien qu'elle est démunie parce qu'elle sait que ses enfants n'ont pas de perspective et que donc elle peut leur offrir certes la culture et elle fait ce qu'elle peut, mais elles n'ont pas de perspective, je dirais, d'avenir en termes d'insertion sociale.
Non, Thierry Jonquet.
Oui, sur les mots, puisque les mots ont leur importance, c'est très frappant là dans votre essai. On part plus. Il y a quelques mois encore, on parlait de l'immigration, et là, justement, sous la pression des indigènes, on parle maintenant de l'immigration postcoloniale. C'est-à-dire que il y a effectivement un petit parfum de repentance qui est
constat.
Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Écoutez, moi, mon fils, par exemple, va dans un collège du secteur public et il côtoie des enfants chinois, ghanéens, béninois, tamouls, qui sont des immigrés. Mais ça n'a rien à voir. Enfin, je ne pense pas que la France ait eu quelques.
Je ne dis pas que toute l'immigration est postcoloniale.
Donc voilà, non. Donc je ne comprends pas très bien.
Elle est majoritairement postcoloniale. Et disons, le paradoxe, si vous voulez,
il y a deux ans, il y a un
pose problème à la
migration postcoloniale.
C'était beaucoup
je me demande comment est apparu ce terme et pourquoi.
En tout cas, il est sûr que les indigènes de la République ont dû jouer un rôle.
Oui, ils ont joué un rôle, mais parce que je crois qu'il y a aujourd'hui une espèce de prise de conscience en France, alors qui est complexe, hein, parce qu'elle relève de plusieurs aspects. Elle relève d'abord d'un progrès de la connaissance historique. Hein. On a aujourd'hui, par rapport à l'histoire de la colonisation et par rapport à l'histoire de l'immigration, qui était longtemps des questions qui étaient laissées en jachère, il y avait deux, trois spécialistes un peu comme ça, marginaux, et qui sont en train de devenir, et là, pas seulement en France, quand on regarde le monde hispanique, par exemple, et l'histoire de la colonisation hispano-américaine, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on a des objets historiques qui apparaissent, et puis on a aussi, au fond, une revendication mémorielle, mais pas en termes simplement de repentance, en termes de s'assumer soi et d'assumer son passé, de cette génération venue à l'âge adulte, et venue aussi parfois, pour un certain nombre d'entre eux, à l'âge de la compétence universitaire, qui se dit, qui sommes-nous et que pouvons-nous être ? Donc il y a une revendication derrière qui est moins une revendication de repentance, je crois, qu'il ne faut pas entendre du tout comme ça, qu'il faut entendre comme une revendication de reconnaissance. Quand aujourd'hui, les enfants des anciens esclaves disent, qu'est-ce qu'ont été nos traditions et qu'est-ce qu'ont été nos familles ? Il n'en reste rien, tout ça a été réduit en ruine, et qu'ils essayent de retrouver des traces et de reconstituer ça, c'est quand même quelque chose qui devrait nous parler, qui devrait nous évoquer.
Enfin, et on devrait aussi s'interroger sur la forme prise par cette revendication, une forme doublement haineuse à l'égard d'un pays serait rendu coupable de l'esclavage, à l'exclusion de toutes les autres formes de traite négrière, dont il n'est jamais question dans cette recherche de mémoire. Il s'agit de la traite négrière transatlantique, mais comme une solidarité a été imposée par les indigènes de la République entre les victimes ou les descendants des victimes de la colonisation et les descendants des victimes de l'esclavage, on ne peut pas parler des traites arabes, et il y a une dimension violemment antisémite dans cette revendication aujourd'hui. Un côté, les juifs sont considérés comme les victimes absolues, et c'est insupportable à Dieudonné, c'est insupportable à Raphaël Confiant, qui maintenant dit des juifs que ce sont les innommables, et qui dit que le grand scandale pour les Antilles tout entières, c'est Israël et la politique d'Israël. Donc ce n'est pas un phénomène marginal, c'est un phénomène aujourd'hui central dans cette affirmation du désir de reconnaissance. Mais... Et il y a une difficulté aussi, si vous voulez, parce que vous disiez tout à l'heure, l'école... c'était une promesse d'ascension sociale. L'école, c'était aussi, et notamment dans l'enseignement secondaire, une promesse de culture. C'est-à-dire la France se donnait comme une patrie adoptive. Une patrie, c'est aussi la voie des morts. Eh bien, or, mais cette promesse de culture...
C'est de ça dont il est question, c'est de la voie des morts.
Oui, mais cette promesse de culture, si vous voulez, elle n'importe plus à personne. Et on vous dit, de toute façon, comme nous ne sommes pas sûrs d'avoir un emploi, à quoi bon ? À quoi bon jouer le jeu de l'école ? Et on se place d'entrée de jeu dans la posture de celui qui est une victime du chômage et qui est aussi une victime du racisme. Je ne suis pas sûr que tout ce discours-là favorise vraiment la réconciliation que vous appelez de vos voeux.
Si vous voulez me dire qu'il y a des gens qui sont dans une posture victimaire, qui se complaisent dans une posture victimaire et que celle-ci ne conduit pas très loin, ça je vous l'accorde tout à fait. Et si vous voulez me dire qu'il y a des gens comme Dieudonné ou Raphaël Confiant qui tiennent des propos tout à fait inadmissibles et insensés d'ailleurs, je vous l'accorde tout à fait.
Ça n'empêche... Et ce ne sont pas des individus isolés, c'est ça le problème.
Dans le cas de Dieudonné, c'est beaucoup plus compliqué.
Dans le cas de
Dieudonné
et de Raphaël Confiant, je pense que c'est vraiment des individus isolés.
Non, écoutez,
ils sont suivis par une petite cohorte de
fidèles. Non, c'est pas une petite cohorte.
Mais si vous prenez vraiment les vrais travaux, ceux de Françoise Vergès, ceux de toute une série d'historiens, ils ne disent absolument pas ça. Si vous prenez les attendus de la loi Taubira et les discours de Christian Taubira, ils ne disent absolument pas ça.
Taubira, je ne sais pas, mais vous serez d'accord avec moi pour constater que Dieudonné a beaucoup plus d'écho que Françoise Vergès, qui est d'ailleurs venue à cette émission pour discuter de tous ces problèmes avec Stéphane Smith.
C'est un histrion médiatique.
Oui, très médiatique. Et même j'en terminerai, son flirt...
Précisément, sur son écho, comment son sérieusement écorné.
Parce que son flirt avec Le Pen...
Un bon nombre d'associations qui c'est pas depuis le flirt avec Le Pen. C'est depuis, effectivement, ses premiers dérapages verbaux qui n'avaient rien à voir avec Le Pen. Mais précisément. D'ailleurs, je trouve ça tout à fait significatif et ça montre que les fleuves vont toujours dans le même sens. C'est-à-dire que quand des gens tiennent des propos révisionnistes et des propos insensés, eh ben, ils se retrouvent, effectivement... dans les eaux troubles de l'extrême droite. Ça, c'est tout à fait normal.
Mais là, vous parlez d'individus. En parlant de Dieudonné, vous parlez d'individus tout à fait marginaux. C'est pas vrai. Les spectacles de Dieudonné au Zénith, qui rassemblent des milliers et des milliers de personnes...
Il a fait ça le comble encore tout récemment.
Oui, bien sûr. Sont en quelque sorte les plus grands meetings antisémites qu'on ait jamais vus depuis la guerre. C'est totalement insensé, mais bon, la presse en parle assez peu. Mais si Le Pen se permettait de tenir les propos que Dieudonné tient devant son auditoire, ça ferait un véritable tollé. Alors là, évidemment, c'est beaucoup plus gênant parce que, bon, comme vous dites, histrion, etc. Mais enfin, il faut quand même prendre la mesure de l'ampleur du phénomène Dieudonné, qui ne va pas du tout s'atténuer. Parce que si on dit Dieudonné, Black, etc., rejoint le Front National, ça ne pourra jamais marcher, on raisonne en termes rationnels. Alors que cette affaire n'est pas du tout rationnelle. Et il y a beaucoup à craindre de l'influence d'un personnage comme Dieudonné qui est absolument redoutable.
C'est une petite parenthèse, mais il est clair que sa visite d'une fête du Front National l'a desservi. Pas autant qu'on l'aurait souhaité, mais justement... Il a quand même fait sale comble. Or, je pense que si Dieudonné était allé serrer la main, ou avait tenté de serrer la main de Nicolas Sarkozy, le ministre de l'Intérieur, là, il aurait explosé. Parce que nous vivons une situation tout à fait étrange aujourd'hui, où la diabolisation s'est déplacée. Et Le Pen en profite. Je ne sais pas s'il en profitera électoralement, mais il en profite. Si aujourd'hui, l'antiracisme a un diable, c'est Nicolas Sarkozy. Il est dénoncé jour après jour par les guignols de l'info, et Le Pen s'en tire plutôt bien. C'est-à-dire, il n'est pas simplement normalisé par sa fille, il est normalisé par un déplacement de la diabolisation, et cela permet en effet à Dieudonné de continuer à faire carrière. Mais je voudrais là vous poser quand même une question plus générale, Joël Roman. Vous dites qu'au lieu de chercher une assimilation qui ne serait peut-être plus souhaitable ou qui pourrait perpétuer une attitude coloniale, il faudrait aujourd'hui lutter contre les discriminations. Sans doute, une telle lutte est-elle nécessaire ? La vigilance ne doit pas se relâcher. Mais d'un autre côté, ne risque-t-on pas aujourd'hui de faire du racisme l'alibi des comportements extrêmes ? Nous sommes victimes du racisme, alors ceci, alors cela. Alors pourquoi travaillons-nous ? Par exemple, vous dites lutte contre les discriminations. Y a-t-il discrimination à l'embauche quand quelqu'un arrive encapuchonné ou quand précisément il n'a pas d'autre langue à sa disposition que le parler banlieue qu'on entend dans l'esquive ? Quel chef d'entreprise, et notamment d'entreprise de service, peut employer un jeune dans cette situation ? Reste qu'avec l'idée de lutte contre les discriminations, il va se dire « c'est ma langue et j'ai le droit, avec la culture dont je suis dépositaire, qui est celle du rap, de la parler. Et si je ne suis pas embâché, c'est une discrimination. » Et donc, on dénoncera le racisme, ce qui contribua d'ailleurs à enfoncer ce jeune dans son marasme. L'antiracisme est un principe fondamental. Il ne faudrait pas qu'il devienne une idéologie et qui plus est un alibi.
Non, mais c'est pour ça qu'il ne s'agit pas à proprement parler d'antiracisme. C'est-à-dire que la plupart des discriminations que l'on constate ne sont pas des discriminations racistes au sens strict, mais ce sont néanmoins des discriminations. C'est-à-dire que c'est tout le problème. Les discriminations qui relèvent au fond de comportements qui sont d'ailleurs sanctionnables et qui sont sanctionnés en général par les lois, sauf que dans ce nombre de cas, c'est difficile de faire la preuve qu'il y a eu discrimination, mais qui sont des qui relèvent du comportement individuel. Le refus de louer un appartement, le refus d'embaucher précisément quelqu'un, non pas correspondant à ce que vous dites, mais correspondant aux critères évidemment du poste et aux compétences exigées par le poste. Bon, ce genre de comportements sont d'abord relativement minoritaires, même s'ils existent et qu'il faut les combattre, et ils sont combattus. Le problème, c'est pas celui-là, le problème des discriminations. Le problème des discriminations, c'est beaucoup plus profondément, en quelque sorte, un problème structurel d'un certain nombre de fonctionnements institutionnels, comme par exemple le fait que dans un certain nombre de quartiers, l'école majoritairement se situe à des taux de réussite bien inférieurs à la moyenne nationale, et de toute façon dans une situation où les individus sont, y compris les meilleurs, y compris les mieux disposés, y compris ceux qui travaillent le mieux, complètement encoincés, complètement enfermés. Ça, c'est de la discrimination, je dirais, globale au niveau d'un système, sans qu'il y ait personne qui ait des intentions racistes. Et c'est pas un fait de racisme à proprement parler, c'est un fait de discrimination. Alors, je crois qu'il vaut mieux parler de discrimination que de parler de racisme. Ça rend les choses moins confuses, je dirais. Il y a du racisme, il doit être combattu, mais globalement et généralement, il l'est. Bon, alors, après, on peut toujours trouver des cas qui n'ont pas été combattus, etc. Mais globalement, il l'est, et il est plutôt pas trop mal. En revanche, les discriminations, nous ne savons pas. Mais lutter contre les discriminations systémiques, pour parler comme les sociologues.
Discrimination systémique, dites-vous. Et il est vrai qu'on trouve des ghettos en France. Et donc, qui dit ghetto, dit ségrégation, zone d'éducation prioritaire, etc., etc. Mais d'où vient cette ségrégation ? Alors, on peut imputer la responsabilité au système, à la société, aux gens des classes moyennes qui ne veulent pas avoir quoi que ce soit à faire avec les populations immigrées. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et dans le rapport Aubin, il est dit que souvent, le départ des anciens habitants des cités a été accéléré par quelques violences bien ciblées, où les menaces et les agressions ont par exemple eu raison des derniers responsables des anciennes associations qui militaient pour la mixité et l'intégration. Il y a aussi, dans certaines cités, dans certains quartiers, une espèce de nettoyage ethnique que d'ailleurs les rapports des renseignements généraux ont constaté.
Ne dites pas n'importe quoi, s'il vous plaît.
Bah, écoutez,
le mot de nettoyage ethnique, et vous le savez mieux que moi, a été employé dans un contexte très précis.
On vire
pour
des
qualifier
gens.
Des
on
choses
des
qui
gens.
Étaient des crimes
on
et des crimes contre
des
l'humanité.
On vire des gens. On vire des gens pour rester
ne dites,
entre
non,
soi.
Mais, C'est pas sérieux d'employer ce terme.
Alors, est-ce qu'on vire
ce n'est pas sérieux d'employer le terme.
Est-ce qu'on vire des gens pour rester entre soi ou non? Ou est-ce qu'on va continuer à dire, ben voilà, tout ça, c'est le système qui ne veut pas, qui ceci, qui cela.
Alors, qu'il y a des comportements scandaleux, moi je l'accepte et je reconnais et je dis qu'il faut qu'ils soient punis. Maintenant, si on dit n'importe quoi à ce moment-là, effectivement, on peut dire n'importe quoi.
Non, écoutez, franchement.
N'utilisons pas ce mot. L'anti-nettoyage ethnique, c'est une entreprise concertée pour rendre des territoires et des territoires qui ne sont pas des cités. Qui sont des territoires entiers ethniquement purs. On sait très bien que ça a été que nous avons dénoncé ensemble en ex-Yougoslavie. Je ne crois pas que ça soit ça qui se passe en France, et vous n'avez pas à le dire.
Je n'ai pas à le dire, mais je crois, moi, qu'en France, et je vais aggraver mon cas, il y a un certain nombre de gens qui plaident pour le métissage et pour la mixité, et qui, car ils ont la possibilité, mettent leurs enfants dans des collèges, des lycées, et le plus souvent maintenant des collèges et des lycées privés, ethniquement pur. Ça existe de tous les côtés.
Bien sûr que ça existe.
Voilà, donc, Thierry Jonquet.
Je ne sais plus où on est. Pour revenir à ce qu'on évoquait tout à l'heure, moi je crois que ces 30 ans de chômage de masse ont marginalisé des populations entières. Et il faut bien en avoir conscience que dans de nombreuses cités, une véritable petite pègre est née et qui ne demande qu'à se développer. Et qui effectivement pourrit considérablement la vie des habitants. Vous parlez de votre livre de la peur, etc. Mais les gens qui subissent le plus la peur sont les gens qui vivent dans ces cités et qui ont à redouter les exactions dont ils sont témoins au quotidien. Ça a été extrêmement facile, loin de moi, l'idée de défendre Sarkozy, mais son idée de loi là sur les halls d'immeubles. Ça a été vraiment.
C'était pas Sarkozy d'ailleurs, je dois dire, à sa décharge. Dans la loi contre diverses mesures de sécurité qui ont été prises après les événements du 11 septembre 2001 et qui étaient faites par la gauche. La gauche qui a la première instituée en délit le rassemblement dans les halls d'immeubles. Ouais. Je suis au regret de le dire parce que personnellement j'aurais préféré que ça soit plutôt Sarkozy, mais c'est
parce la gauche. Joël Roman, qu'il ne faut pas réprimer les rassemblements dans les halls d'immeubles.
Je pense que c'est une incivilité, que ce n'est pas un délit et que c'est. Alors, on peut discuter de cet aspect-là.
Voilà encore la guerre des mots, ce mot d'incivilité qui est très pratique parce qu'il recoupe toute une série de comportements.
Mais il recoupe des choses qui sont des choses réelles, qui sont un comportement grossier, etc., qui ne sont pas des délits, parce que sinon, premièrement, la liste des délits va s'allonger de façon absolument inimaginable.
Les gens qui vivent
D'autre part, les désagréments, disons, de la cohabitation que nous rencontrons tous les jours en ville, et pas simplement du fait des mômes de banlieue. Je veux dire, moi, je me suis fait renverser sur un passage piéton il y a un an. C'était par un automobiliste lambda qui est simplement quelqu'un qui refusait de s'arrêter au feu. Bon, donc je veux dire, ce genre de comportement incivil, ils sont en permanence là et je crois qu'ils doivent être réprimés éventuellement, ils doivent être remarqués, ils doivent être relevés, ils doivent être éventuellement sanctionnés, mais pas forcément par la loi. Mais ça, c'est un autre débat.
C'est un petit peu fou là de parler des comportements d'automobilistes. Bon, moi, j'évoquais plus ou moins Youssouf Fofana. Bon, ce qui sont quand même des comportements autrement.
Ça, c'est autre chose. Je vous parle d'incivilité. Vous me parlez d'un crime barbare et d'un crime particulièrement barbare qui est l'effet le fait d'un type totalement déséquilibré et qui doit évidemment.
C'était une bande quand même.
C'est pas une responsabilité collective des enfants des banlieues quand même. Ou alors où on va quoi.
Non, mais
pas du tout. Mais enfin,
où on va et la question c'est de savoir de quoi est-il symptomatique. Il n'est pas une question d'incriminer tout le monde.
Symptomatique, il y a des crimes horribles. C'est tout.
Je crois que l'affaire Youssouf Fofana et donc des barbares est un symptôme absolument patent du développement de l'antisémitisme.
Non, je ne crois pas qu'on puisse
le
dire.
Ilan Halimi est mort parce qu'il était juif. Fofana avait repéré sur le boulevard Voltaire les magasins qui fermaient les jours de fêtes juives. Et c'est pour ça qu'il s'est dirigé vers Ilan Halimi. Donc c'est vraiment l'antisémitisme de base et qui est extrêmement développé. D'un côté, on a le discours de Dieudonné et de l'autre côté, on
c'est
a Fofana.
C'est un crime crapuleux, issu d'un cerveau particulièrement déséquilibré et qui n'a aucun rapport, je dirais, avec les questions que nous discutons ici. Qui sont des questions... général.
Mais ça fait
donc parlons des questions qui se posent à la majorité des gens.
Du temps.
Et quant à la peur, moi je suis d'accord avec vous sur la peur. Elle a été parfois sous-estimée. Il n'empêche que les mesures qui ont été mises en place, les contrôles de police incessants, les tracasseries policières permanentes envers des gens qui n'ont d'autres commis d'autres délits que d'être ce qu'ils sont, parce qu'ils sont un peu basanés, parce qu'ils sont en groupe, parce qu'ils sont jeunes et parce qu'ils sont habillés, effectivement, comme le disait Alain Finkielkraut, avec des capuches sur la tête et qui déambulent comme ça de manière un petit peu nonchalante. Les tracasseries policières permanentes créent un climat de peur aussi chez ces jeunes. Qu'est-ce qui s'est passé au début des émeutes? Vous le savez très bien, vous savez que des jeunes qui n'avaient rien fait, qui rentraient du football.
Ils étaient entrés dans un chantier pour voler.
Ce n'est pas vrai.
Ça a été prouvé par l'IGS.
Ça n'a pas été prouvé par l'IGS. Ça a été démenti par tout le monde, y compris par l'IGS. Alain Finkielkraut, vous le savez très bien, vous inventez. Ils étaient entrés dans un chantier.
Je mens. Alors, moi, je prétends qu'ils étaient entrés dans un chantier, que l'IGS l'a reconnu et que l'IGS l'a redit une fois que l'IGS a senti que son rapport avait été détourné. Ils ont subi un contrôle, ils ont refusé le contrôle, ils se sont enfuis. Ensuite, il y a eu toutes sortes d'inconséquences et de légèreté policière. Mais le fait qu'ils soient entrés dans un chantier pour y voler quelque chose,
tous les éléments du dossier que vous voudrez, et les auditeurs pourront aussi. Tout le monde sait que c'est faux.
Bon, d'accord.
Et que ces enfants n'avaient rien fait. Ils rentraient du football et ils ont été contrôlés par une patrouille de police.
Écoutez, je suis un menteur, mais je trouve tout à fait incroyable, si vous voulez, de nous parler des tracasseries policières. Toujours les tracasseries policières. En revanche, dans les Yondi Blum, ce sont les incivilités. Or, ces incivilités ne sont-elles pas des tracasseries? Le bruit n'est-il pas une tracasserie? Mais c'est toujours la même chose.
J'ai pas dit que c'était agréable. J'ai pas dit que c'était des comportements admissibles.
Oui, mais ce sont
pas forcément des délits.
Ce sont des tracasseries beaucoup plus fréquentes, beaucoup plus violentes et incessantes que subissent les habitants de ces cités et dont effectivement tout un discours ne veut pas nous parler ou que tout un discours cherche à minimiser pour nous placer dans le face-à-face entre eux et nous, eux qui sont nos enfants, nous avec nos flics qui ne savons pas les recevoir. Mais je voudrais revenir à l'affaire Fofana. J'ai ici un livre d'Adrien Barrault que je voudrais, signaler au lecteur, si c'est un juif, Réflexion sur la mort d'Ilan Halimi, et qui relate une phrase d'Ilan Halimi citée par une de ses comparses. D'après lui, les juifs étaient les rois car ils bouffaient l'argent de l'État et lui, comme il était noir, il était considéré comme un esclave par l'État. C'est une bouillie de chat, mais on sait quand même qu'elle vient de quelque part. Et puis surtout, vous dites, il ne s'agit pas de dire les barbares, c'est la banlieue, mais il s'agit de s'interroger sur la nature d'un certain nombre de faits divers. Et ce qui m'a beaucoup frappé dans votre livre, Thierry Jonquet, c'est le rapport à ce héros de cinéma, Scarface, Tony Montana, dont vous dites que pour un certain nombre de jeunes, il est une idole. Et on sait que c'est un gangster sans foi ni loi qui veut ramasser le plus d'argent possible. On sait aussi que le grand rappeur de ce temps s'appelle 50 Cent et son credo, c'est Get Rich or Die Trying. S'enrichir ou mourir en essayant. Et l'on voit là, moi, je crois, le vrai rapport entre notre société et ces jeunes un peu perdus. C'est une société qui se fonde majoritairement sur l'argent. L'élite, aujourd'hui, ce sont les people. Les people sont pleins de fric. Et évidemment, ça marque un certain nombre de comportements et de désirs d'aller immédiatement à la consommation, une sorte d'avidité dont votre livre, je crois, porte témoignage, Thierry Jonquet.
Oui, tout à fait, mais c'est assez stupéfiant. Il faut regarder ce film pour comprendre. C'est vraiment une apologie tout à fait cynique du gangstérisme le plus...
Et vous êtes...
redoutable, et c'est un film culte dans les cités. Au moment de la sortie du film Indigène, Jamel Debbouze a dit qu'il était très fier d'avoir fait ce film et qu'il espérait que le film Indigène deviendrait le film culte des cités au lieu de Scarface, il l'a déclaré. Donc c'est tout à fait bon. Et donc c'est moi je suis assez d'accord avec ce que vous venez de dire, mais puisqu'on était à la rubrique des faits divers, alors je sais pas exactement ce qui s'est passé dans le transformateur électrique, etc., mais c'est ça qui a déclenché les émeutes. Bon. Revenons-en au Karcher, parce que tout le monde a oublié ce qui s'était passé autour de cette histoire. C'est un gamin d'une dizaine d'années qui a pris une balle dans la tête, tiré par des dealers qui étaient en train de s'affronter. Et le jour de la fête des pères, il était en train de laver la voiture de son père, c'était son cadeau. Voilà. Et donc un gamin de 10 ans meurt d'une balle dans la tête, tué par des dealers, et là, la banlieue ne brûle pas, il n'y a pas d'émeute, il ne se passe rien.
Non mais
c'est-à-dire que la mort de ce gamin était passée à l'as complètement. Il n'y a eu aucune
réaction. Laissé des gens indifférents. Il y a eu d'ailleurs. Il y a eu aucune réaction collective. Une manifestation silencieuse à l'époque à La Courneuve.
Oui, cité, mais
à La Courneuve dans la
cité. Sans commune mesure avec ce qui s'est passé au mois de novembre.
Beaucoup plus. Mais oui. Heureusement d'ailleurs. Heureusement que chaque fois qu'il y a un mort, hélas, il n'y a pas des émeutes. Évidemment. Non mais simplement, je prenais l'exemple pour dire c'est ça qui a été pour dire qu'il y avait il y a un climat de peur aussi du côté des jeunes. Il faut pas oublier, y compris.
Peur qu'ils brûlent les écoles alors.
Non, c'est pas parce qu'ils ont peur qu'ils brûlent l'école. Je dis simplement que le climat de peur est partagé. Et donc où est-ce qu'on va aller? C'est ça la question. C'est est-ce qu'on va continuer au fond dans cette escalade? Est-ce qu'on va continuer dans l'escalade ou est-ce qu'on cherche plutôt à essayer de calmer le jeu. D'ailleurs, vous avez une très belle phrase à un moment quand vous évoquez précisément ce clivage entre eux et nous, ou il et puis nous. Vous dites heureusement qu'il reste des gens pour essayer de calmer le jeu, heureusement qu'il reste des gens pour essayer de garder un peu la tête froide, de rappeler les faits, tous les faits. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Alain Finkielkraut, tous les faits, mais les faits simplement, et pas d'en rajouter en quelque sorte sur les faits.
Il y a un discours qui se tient à propos de ces jeunes qui est totalement insupportable. Vous-même, dans votre essai, vous parlez de révolte à propos des émeutes de novembre. Mais je ne vois pas de révolte, moi. C'était une explosion de rage, de violence totalement gratuite, ludique. Il n'y avait strictement aucun contenu, il n'y avait aucune revendication, il n'a émergé aucun leader, aucun porte-parole, s'est rien passé. C'était une explosion de rage.
C'était une explosion de rage.
Alors,
si
la qualifier de révolte, comme ça a été fait. Ensuite, on est venu plaquer un discours pseudo-politique sur ces événements. Il y a eu une tribune dans Le Monde publiée par je ne sais plus qui disait qu'ils sont entrés en politique. Mais enfin, la femme qui, au mois de novembre, pas celle de Marseille, qui a été brûlée par un cocktail Molotov à l'intérieur d'un bus, le jour où elle a lu peut-être cette tribune du Monde, ça a dû la faire bondir. Parce que si entrer en politique, c'est s'en prendre avec un degré de violence tel à ses voisins de palier, c'est assez inquiétant comme entrée en politique. Et là, il y a eu tout dans les mois qui ont suivi les émeutes, on a eu une floraison de livres, de sociologues, d'articles, etc., qui ont expliqué, essayé de par une escroquerie intellectuelle totale, il nous explique que c'était une révolte. Mais il n'y avait pas de révolte.
Je ne crois pas que ce soit une escroquerie intellectuelle de dire que c'est une révolte. C'est une escroquerie intellectuelle si on dit que c'était une révolte organisée, et c'était une révolte avec des leaders, et c'était une révolte qui avait des buts. Parce qu'évidemment, c'était une révolte qui n'avait pas de leader, qui n'avait pas de but, qui n'était pas organisée, qui avait aussi d'ailleurs des côtés ludiques et de compétition entre les quartiers. Alors après, c'est un problème de vocabulaire, peu importe. Ce que je veux dire, c'est qu'il y avait une signification dans ces émeutes, et une signification qui était en partie une signification sociale et politique, pas forcément politique.
Oui,
je me rappelle très bien que dans les premiers temps, après ça s'est un peu calmé, mais dans les premiers temps de ces émeutes, il y avait très souvent des discours qui accompagnaient un peu les émeutes, qui s'en prenaient très fortement à Nicolas Sarkozy, à cause de ses propos. S'en prenant au ministre de l'Intérieur, c'est une signification politique. Je ne dis pas qu'ils s'en prenaient bien, je ne dis pas qu'ils avaient raison de le faire, je ne dis pas qu'ils avaient raison de casser, quoi que ce soit. Je dis simplement qu'il faut entendre aussi, c'est notre rôle d'essayer de décrypter les signes et de comprendre ce qui se passe. Et de comprendre que là, derrière une émeute pareille, disons, ce n'est pas simplement un acte de délinquance.
L'affaire du bus de Marseille. Il y a quelque chose qui était. Je vois pas
l'affaire du bus de Marseille. Oui, mais ça n'a pas pris sens par rapport à. C'était dans un contexte très différent de celui des émeutes. Et vous voyez bien d'ailleurs que dans l'affaire du bus de Marseille, il y a quelques individus qui sont mis en cause, qui sont d'ailleurs pas forcément tous issus de l'immigration, qui posent des problèmes d'ailleurs de compréhension, je dirais, psychologique, puisqu'un certain nombre d'entre eux sont des enfants qui marchaient bien au collège, qui avaient une structure familiale stable, avec des parents qui étaient présents. Enfin, donc, on n'est pas du tout dans le cadre de ce qu'on décrit parfois. De gens totalement désocialisés, etc. Donc, on a un vrai problème, effectivement, de gérer un certain nombre d'adolescents qui passent à l'acte de manière absolument scandaleuse.
Non, mais on a un autre problème. Vous avez posé la question, que faut-il faire? Alors, je ne vais pas proposer une réponse. Mais quand on parle de révolte pour cet accès de rage et de vandalisme, on fait aussi un acte de discours.
Bien sûr.
Et donc un acte politique. On embellit la rage. On la légitime partiellement. Et quand Assez le Feu présente, à la suite des émeutes, des cahiers de doléances, on fait apparaître, à leurs propres yeux, ceux qui se sont lancés dans ces incendies, comme des révoltés, voire des ayants droit. Ils ont des doléances à faire valoir. Pour qu'entre eux et nous, un autre rapport s'instaure, pour qu'ils acceptent d'être les enfants de la République, mais aussi d'une vieille nation, ne serait-il pas important de fixer un certain nombre de règles? N'ont-ils pas besoin de cela, de repères et de règles, de limites? Et par exemple, la loi sur le voile. Je ne veux plus entrer ici dans le débat sur la laïcité. Parce que, après tout, ce débat n'est pas forcément le plus fondamental. Deux types de laïcité s'affrontent. Une chose est sûre, c'est que l'Europe repose sur une certaine forme de coexistence des sexes. L'Europe repose sur la mixité, comme le montre Claude Habib dans Galanterie française, son dernier livre. C'est quelque chose de très antérieur, même à l'égalité des hommes et des femmes. Dans l'ordre patriarcal européen, la mixité existait. L'Europe veut rester fondée là-dessus. Elle ne veut pas d'un régime de coexistence qui reposerait sur la séparation. Vous citez Thierry Jonquet, un imam, dans votre article du rapport sur le rapport Aubin, un imam qui en 1987 disait que les femmes qui sortent non voilées sont nues. Donc il faut les voiler pour les séparer. Et il ne faut même pas qu'elles travaillent. Régime de séparation. Donc n'est-il pas important de fixer des règles déontologiques, mais aussi des règles culturelles? L'Europe ne doit-elle pas défendre au moins cela, ce régime de mixité? Et cela ne serait-il pas beaucoup plus clair pour tout le monde? Parce que si on donne à ces jeunes paumés une mentalité d'ayant droit, je crois qu'on ne va faire qu'élargir le fossé entre eux et nous. Joël Roman et puis Thierry Jean.
Non, deux choses. D'abord, sur la question de la mixité, qui me paraît effectivement être une valeur fondamentale. Que je sache, Claude Habib montre que c'est une valeur fondamentale de la société française et pas de la société européenne. Et que de ce point de vue-là, il y a des différences très profondes, précisément, notamment entre des traditions culturelles comme la France et celles de l'Allemagne. Des traditions qui sont d'ailleurs paradoxales et qui demandent à chaque fois qu'on y réfléchisse. Comment se fait-il que la France, qui est effectivement, pour prendre cette question, qui est effectivement, comme le dit Claude Habib, le pays probablement où la question de la mixité, le culte de la mixité a été poussé le plus loin en matière intellectuelle, en matière sociale, en matière de relations de galanterie précisément, comment se fait-il que ce soit ce pays-là dans lequel les femmes aient eu le droit de vote le plus tard? C'est-à-dire qu'il y a un décalage entre des représentations, je dirais, qui d'une certaine manière supportent la mixité et puis d'autres qui la dénient parce que précisément nous franchissons en quelque sorte plus allègrement que d'autres peut-être le saut vers l'universel et vers un universel qui manque de pluralité. Et moi, ce pourquoi je plaide, c'est pour un universel qui serait pluralisé. La question du port du voile, je ne veux pas reprendre ce débat-là, parce que... Mais la question du port du voile, c'est une marque, mais c'est une marque qui est destinée à... aux yeux d'un certain nombre de considérations que je trouve tout à fait contestables, mais ça c'est un autre débat, destiné à assumer une forme de mixité, puisque le voile se porte dans l'espace public, c'est-à-dire dans un espace mixte précisément. Donc c'est pas une mesure contre la mixité, c'est une façon d'entendre et de marquer spécifiquement la spécificité des femmes de manière contestable, de manière qui à mon avis ne justifiait pas une loi, mais
donc un universel pluriel, c'est ça, c'est pour ça que vous dites. Alors Thierry Jonquet, même question sur le que faut-il faire
sur la question de la mixité. Alors là, justement, dans ces cités, dans ces banlieues, les jeunes femmes et les jeunes filles souffrent énormément d'un machisme totalement délirant de la part des garçons. Bon, le cas Sohan en est devenu le symbole. C'est une situation de grande gravité. Et moi, sur la question du voile, je n'ai pas...
Mais moi, je peux vous citer le cas d'une jeune fille qui a été battue à mort, ou pas tout à fait à mort, mais enfin gravement battue par son frère, couvert par... le frère a été couvert par le père parce qu'elle refusait un mariage obligé qui devait se faire au bled, etc. Qu'est-ce qui dénonce ça? C'est une association de gens issus de l'immigration. C'est un cas quand même pathologique. Il y a des gens qui ont des comportements pathologiques et qui doivent être soit soignés, soit même sanctionnés par la loi parce qu'ils ont des comportements qui sont délictueux, effectivement. Bien entendu. Mais n'en faisons pas une généralité.
Thierry Jonquet.
Mais c'est pas en faire une généralité. Enfin, c'est reconnaître une réalité, tout simplement. L'émergence d'un mouvement comme Ni pute ni soumise l'a largement démontré. Il a fallu que quelqu'un leur donne la parole. Le succès
des indigènes de la République est écrit implicitement contre Ni pute ni soumise. L'adversaire des indigènes de la République, c'est le ministre de l'Intérieur, mais c'est surtout Ni pute ni soumise.
C'est parfaitement cohérent.
Pour terminer, justement, parce que l'émission malheureusement s'achève, quelle réponse, si je vous demande que faut-il faire, qu'est-ce que vous diriez?
Je crois que la question est avant tout sociale. Bon, je parlais tout à l'heure en début d'émission du chômage de masse qui sévit depuis une trentaine d'années. Tant que ce fléau n'aura pas été levé, on n'avancera pas beaucoup. Maintenant, il n'y a pas que ça. Il y a aussi un problème culturel de fond.
Bien sûr.
Et il faut le dire et s'adresser à ces jeunes avec un discours de fermeté sur ces questions-là.
Dans le poème de Victor Hugo que aussi de Thierry Jonquet, le vers suivant, ils sont votre épouvante et vous êtes leur crainte, c'est qu'ils n'ont pas senti votre fraternité.
Alors écoutez, nous terminons sur ce vers ultime qui pourrait susciter une très longue discussion, mais c'est une conclusion belle. Joël Roman, je rappelle le titre de votre livre, après cette discussion chaude, comme on dit chez les jeunes, « Eux et nous », il est publié chez Hachette. Thierry Jonquet, vous avez écrit « Ils sont votre épouvante et vous êtes leur crainte ». Le livre est publié aux éditions du Seuil. Je rappelle le titre du livre qui vient de sortir d'Adrien Barrault, « Si c'est un juif, réflexion sur la mort d'Ilan Halimi » chez Michalon. Et puisque j'y ai fait référence, « L'école face à l'obscurantisme religieux », 20 personnalités commentent un rapport choc de l'éducation nationale, publié chez Max Milo. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre « La figure du juif de savoir ». Mes invités seront Catherine Clément et Jean-Claude Milner. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration de Claire Poinsignon et Didier Lagarde. Dans un instant, Jean-Noël Jeannonet.
Alain Finkielkraut a réuni pour vous un certain nombre de ses entretiens autour de la littérature dans un ouvrage « Ce que peut la littérature ».